Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. Les explorations sous-marines, par Edmond Perrier, livre 2, Voyage du Talisman.
Le 1er juillet 1883, une équipe scientifique dirigée par le professeur Alphonse Milne Edwards quitte Rochefort à bord de l'éclaireur d'escadre, le Talisman. Après quelques semaines dans les Canaries, le Talisman vogue désormais vers les îles du Cap-Vert en quête d'eau plus profonde. Comme d'autres collègues, le zoologiste Edmond Perrier est de l'aventure pour étudier la faune marine. Dans la nuit du 12 au 13 juillet, le Talisman passe le tropique et comme il ne doit pas atteindre l'équateur, l'équipage décide de procéder à la cérémonie classique du baptême, que 40 catéchumènes, tant passagers que matelots, n'ont pas encore subi. La cérémonie est d'autant plus imposante qu'elle doit coïncider avec les réjouissances nationales du 14 juillet. L'océan lui-même semble vouloir y prendre part et nous offre, à son tour, une merveilleuse fête de nuit. À 3 heures, en effet, l'officier de quart nous fait réveiller. Un splendide spectacle s'offre à nos yeux. Tandis que les éclairs sillonnent le ciel, la mer est embrasée dans toute son étendue. Une douce lumière pénètre la masse entière des eaux. Les crêtes des vagues, aussi loin que la vue peut s'étendre, sont brillamment illuminées. Les flancs du navire sont vivement éclairés, et tout le long du bord glissent, comme des globes de feu, de splendides méduses. On recueille un seau de cette eau phosphorescente. Elle contient une multitude d'organismes presque sphériques, gros comme des grains de millet. Ce sont des noctiluques. Les méduses sont des pélagies qui, lorsque nous les saisissons, rendent nos mains phosphorescentes comme elles. À mesure que nous avançons dans les régions tropicales, les sujets d'observation deviennent d'ailleurs plus nombreux. Le 16 juillet, nous voyons pour la première fois apparaître des requins. Et pendant que les mécaniciens réparent les avaries de notre treuil, nous pouvons examiner tout à notre aise cet irréconciliable ennemi du matelot. Ce sont des requins peau bleue. Il y en a 5 ou 6 qui rôdent le long du bord. Parmi eux, joue un assez grand nombre de ces petits poissons, leurs compagnons habituels, que les marins appellent des pilotes. On prétend que le pilote, dont l'odorat est fin et la vue perçante, indique au requin son ami les proies que celui-ci serait incapable de discerner aussi bien. Il est certain que la plupart de nos requins sont accompagnés de 2 charmants pilotes, transversalement rayés de bleu et de blanc, et qui nagent au-dessus d'eux, de chaque côté de l'aileron. Dans cette position, les pilotes n'ont rien à redouter du monstre qu'ils accompagnent, et peuvent profiter de la terreur qu'il inspire pour vivre en complète sécurité. Il est aussi possible qu'ils détournent à leur profit les débris des repas du terrible carnassier. En somme, dans cette association, c'est probablement ce dernier qui est le bienfaiteur. Les pilotes sont d'ailleurs assez peu fidèles à leurs compagnons, et nous en avons vu bien souvent nager par petites troupes à une assez grande distance des requins. Nos marins ne peuvent résister au plaisir de pêcher quelques-uns de nos imprudents visiteurs. L'un de ceux-ci se laisse prendre à la première ligne que l'on jette. Sur son ventre se trouve fixé par une large ventouse qui occupe tout le dessus de sa tête un autre compagnon ordinaire des requins, un rémora, appartenant à la même famille zoologique que les pilotes. Celui-là est un adroit paresseux. Il trouve commode, au lieu de nager, de se faire voiturer par les requins, auxquels il adhère si complètement par sa ventouse qu'il faut un réel effort pour les séparer. Il se fixe indifféremment sur toutes les parties du corps de son véhicule vivant et s'accommode aussi bien de vivre le dos en bas que le dos en l'air. Le rémora présente quelques particularités frappantes qui montrent combien est grande l'influence des conditions extérieures sur les caractères des animaux. En général, chez les poissons, le dos est plus vivement coloré que le ventre. On peut attribuer cette différence à l'action de la lumière qui frappe constamment le dos de l'animal, tandis que le ventre est moins éclairé. Effectivement, chez les sols et les autres poissons pleuronectes qui vivent couchés sur le côté, celui de leur côté qui repose sur le sol a exactement l'apparence de la face ventrale des autres poissons, tandis que leur côté éclairé ressemble à un dos. Le rémora fournit une démonstration bien plus complète de cette corrélation. Comme il se fixe par le dessus de la tête, son dos est toujours appliqué contre le corps du requin et, par conséquent, n'est pas éclairé. Aussi, les colorations sont-elles interverties. C'est le dos qui est pâle et le ventre sur lequel frappe librement la lumière qui est coloré. L'attitude fréquemment renversée de l'animal a produit un autre résultat. Contrairement à ce qu'on observe d'ordinaire chez les poissons voisins, c'est la mâchoire inférieure qui dépasse la supérieure. En 3 jours, 3 requins mordent à nos amorces et sont ramenés à bord. Un jour, un de ces poissons essaye de plonger sous une embarcation où étaient descendus quelques membres de la mission. La queue de l'animal s'élève un moment au-dessus de l'eau. 2 matelots se jettent sur elle et lui passent une amarre. Malheureusement, l'embarcation est légère et chargée. Le lieutenant juge imprudente cette pêche imprévue et fait rendre la liberté aux prisonniers. Si les requins ne nous troublent guère, nous jetons au contraire l'alarme dans d'innombrables bandes de poissons volants que traverse le talisman. À chaque instant, nous en voyons s'élancer hors de l'eau pour retomber quelques mètres plus loin. Il y en a des 2 côtés du navire, fuyant en sens opposé, ce qui suffit à prouver que ces singuliers animaux ne volent pas seulement contre le vent ou sous le vent comme on l'affirme parfois. Leurs ailes ne sont pas non plus de simples parachutes, car nous les voyons distinctement vibrer au soleil, surtout au moment où l'animal, frappant l'eau de sa queue, rebondit pour ainsi dire en changeant de direction. Nous ne pouvons d'ailleurs nous mettre tous d'accord sur les circonstances qui déterminent ce vol singulier, et nous résumons la discussion en regrettant de n'avoir pas à bord un de ces ingénieux fusils photographiques qui ont permis à M. Marais de fixer d'une manière définitive nos connaissances relatives au vol des oiseaux. Enfin, les poissons volants cèdent la place aux vrais oiseaux. Des bandes de 1000 pêcheurs nous signalent l'approche de la terre. Nous débarquons le 20 juillet à Santiago, l'une des îles du Cap-Vert.
Extrait du livre « Les explorations sous-marines » par Edmond Perrier, livre 2 « Voyage du talisman » édité en 1891 par la librairie Hachette et Compagnie à Paris. Lecture par Paul Bouffartigue. Source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «